Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, sur la table, on a un objet assez inhabituel. Ce n'est pas le dernier essai à la mode, non, ni une étude universitaire. C'est quelque chose de bien plus modeste et je trouve de vraiment passionnant.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est le bulletin numéro 50 du Cartoclub Aveyronnais.
Ah oui, d'accord. Une publication de collectionneurs de cartes postales.
Exactement. Et à première vue, on pourrait se dire... Bon, c'est un hobby un peu désuet, un truc de passionné, quoi.
C'est ça. On imagine des gens qui classent des cartes dans des albums.
Voilà. Sauf qu'en le feuilletant, on change complètement d'avis. Ce n'est pas juste un catalogue.
C'est une véritable machine à remonter le temps.
D'accord.
Chaque page nous ouvre une porte sur l'histoire d'un petit coin de France. Ici, c'est un village de l'Aveyron, la Panousse de Sévérac. Et c'est là que ça devient fascinant. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ce document pour comprendre ce qui fait l'âme, la vie, l'identité d'un village comme celui-là.
Oui.
On va voir que derrière ces images un peu sépia, ces textes d'amateurs éclairés, il y a des histoires incroyables. Sur l'économie, les guerres, des personnages complètement fous.
Ah oui, hein.
Et des transformations sociales profondes. C'est de la micro-histoire qui raconte la grande histoire.
Absolument. Alors, allons-y. Commençons par la base. Le nom. La Panousse. Rien que ça, c'est déjà une histoire.
Oui.
Le bulletin nous apprend que ça viendrait du latin panus.
Panus, qui veut dire le pain. L'essentiel.
C'est ça. C'était lié à une congrégation de moines qu'on appelait les panetiers. Leur rôle, c'était de distribuer du pain aux pauvres, aux pèlerins.
Une idée de subsistance. D'un côté, l'eau, et de l'autre, le blé pour le pain.
Tout à fait.
Et ça a façonné l'endroit. Le bulletin montre une carte ancienne du Sévéraguet du XVIe siècle. Et là, on voit la Panousse. C'est l'image d'Épinal du bourg médiéval.
C'est-à-dire ?
Une muraille crénelée, des portes, des tours et au centre, l'église. Le point d'ancrage. Le village s'est construit sous une double protection. Le monastère qui nourrissait.
Et le château, tout proche, qui défendait.
Exactement.
Un microcosme parfaitement organisé.
Et la vie de tous les jours, elle tournait autour de lieux très concrets. Il y a d'abord l'eau. La source du Soutayrou, réputée intarissable. C'était le cœur battant du village. Et il y a une anecdote là-dessus que j'ai adorée.
Racontez.
Vers 1880, le maire décide de moderniser un peu tout ça. Il fait installer une pompe. Le progrès arrive au village.
Oui. Le ferblantier qui s'en charge, un certain Biscarras, fait un premier essai et... rien. Ça ne marche pas.
Le classique projet de travaux publics qui dérape un peu.
Complètement. Le conseil municipal, furieux, refuse de payer. Le ton monte. Le bulletin parle de quelques éclats de voix.
On imagine la scène.
Finalement, Biscarras se remet au boulot et, miracle, la pompe finit par fonctionner. On imagine la joie des habitants qui faisaient la queue avec leur seau et n'avaient plus à se casser le dos. C'est une petite histoire, mais ça raconte beaucoup de choses.
L'autre point névralgique, bien sûr, c'est l'église. Le bâtiment a encore des éléments du XIIe siècle. C'est le plus vieil édifice du coin. Et qui dit église, dit cloche.
Ah, les cloches.
Aujourd'hui, on y fait moins attention. Mais à l'époque, leur rôle était central. Elles appelaient à la messe, oui, mais elles rythmaient toute la vie de la communauté.
Les joies, les peines.
C'est ça. Les mariages, les enterrements. Mais aussi l'alerte. L'orage, la grêle, un incendie. C'était le système d'alerte et le réseau social du village.
Et en 1918, ce sont elles qui ont sonné l'armistice.
À toute folie.
Et ça me fait penser à une autre histoire, beaucoup plus légère celle-là, que j'ai lue dans le bulletin. Ça se passe autour de ces cloches. L'article s'appelle « Comment gagner un pari ?»
Ça promet.
Le cafetier du village parie avec deux clients qui sont incapables d'empêcher le sonneur, un homme nommé Granier, de sonner l'Angélus à 5h du matin.
Le genre de défi qui ne peut naître qu'au comptoir d'un bistrot.
C'est exactement ça. Le défi est relevé. Les deux compères attendent la nuit, grimpent au clocher.
En douce.
Et calent une grosse botte de paille entre le battant et la cloche. Le lendemain, 5h, le brave Granier arrive, il tire sur la corde une fois, deux fois...
Et
rien.
Un silence de mort.
Il n'en croit pas ses oreilles. Il doit attendre qu'il fasse jour pour aller voir ce qui se passe.
Et pendant ce temps-là ?
Pendant ce temps-là, les deux complices sont déjà au bistrot, en train de savourer la chopine qu'ils ont gagnée.
C'est une anecdote amusante, oui, mais je trouve qu'elle révèle aussi une certaine défiance envers l'autorité, même celle, très symbolique, du sonneur qui rythme le temps. C'est une petite affirmation de liberté.
Une petite parenthèse d'anarchie, c'est vrai. Mais le village a aussi été violemment rattrapé par la grande histoire. La Révolution française, par exemple.
Loin de là, le bulletin rapporte un événement majeur. La révolte et bataille de la Panousse, en 1793.
De quoi s'agit-il ?
Le contexte, c'est la levée en masse. Le nouveau régime républicain impose le service militaire obligatoire. Et ça passe très mal dans les campagnes.
Attachés à leur tradition, au roi...
Voilà. Et à La Panouse, ça a mis le feu aux poudres. Une insurrection de 4000 personnes s'est formée pour s'y opposer.
Attendez, 4000 personnes? C'est énorme pour la région à cette époque.
C'est gigantesque. Ces insurgés, décrits comme royalistes, menés par un certain Capla, ont affronté les troupes républicaines. Et ils ont été écrasés.
Et la répression a suivi, j'imagine?
Terrible. C'était la terreur. Des maisons ont été incendiées. Le château voisin de Loupiac, qui servait de refuge, a été pillé, dévasté. C'était une punition exemplaire.
Le bulletin raconte même le destin d'un des meneurs, Jean-Pierre Bedos, surnommé Le Sonal. Il s'est caché?
Oui.
Mais on l'a retrouvé. Dans une meule de paille. Il a fini guillotiné à Rodez. C'est d'une violence.
Ça a dû marquer le village pour des générations. Et un autre traumatisme, un siècle plus tard, c'est bien sûr la Première Guerre mondiale. Le monument aux morts, érigé dès 1919, en est la cicatrice.
54 noms gravés dans la pierre.
Oui, mais le détail qui m'a le plus frappé, c'est que sur ces 54 soldats, 41 étaient cultivateurs.
41 sur 54, c'est vertigineux. Ça veut dire que le village a perdu ses forces vives.
Littéralement. C'est toute une génération de paysans fauchés.
Avec les conséquences qu'on imagine sur les familles, l'agriculture.
Et l'article soulève un autre point, très intéressant. Le monument est surmonté d'un coq gaulois, un symbole républicain, laïque.
Mmh.
Ce choix a déplu à une partie de la population très catholique qui aurait voulu une croix.
Et pourquoi ce choix alors?
Le bulletin précise que pour obtenir une subvention de l'État, les emblèmes religieux étaient formellement interdits. On est en plein dans l'écho de la loi de séparation de 1905.
C'est fou de voir comment un simple monument peut concentrer autant d'enjeux. Mais La Panouse, ce n'est pas qu'un lieu de drame, c'est aussi un berceau de personnages assez incroyables.
Ah oui.
Le plus célèbre, c'est Guillaume Thomas Rénal, né ici en 1713.
Une véritable star des Lumières. Ami de Diderot, il a participé à l'encyclopédie. Son grand livre dénonçait la colonisation, l'esclavage. Il a été interdit et Rénal a dû s'exiler.
Qu'un penseur d'une telle envergure vienne d'un si petit village, c'est remarquable.
Complètement.
Et à l'opposé, le bulletin nous fait découvrir des figures locales, presque légendaires. Il y a Capus de Tantayrou.
L'Icare local. J'adore ce personnage.
Racontez-nous.
On est vers 1860. Cet homme, un inventeur un peu illuminé, on peut le dire, se construit un aéroplane.
De sa propre fabrication.
Oui, avec des ailes en bois et en toile. Il se poste sur un rocher qui domine la vallée. Et il saute.
Et il s'écrase, évidemment.
Évidemment. Les ailes se sont cassées nettes. Mais il faut une bonne dose de rêve et peut-être de folie pour tenter ça en 1860. Il est devenu une légende.
Et il y en a un autre qui m'a encore plus fasciné, c'est François Costecalde.
Ah, Costecalde, quelle histoire!
C'est un menuisier ébéniste très modeste. Il a passé sa vie à transformer sa maison en une sorte de musée personnel, une œuvre d'art totale. Une carte postale de l'époque montre ce qu'elle appelle un « sacré bazar ».
C'est le terme. Il sculptait sans relâche le bois, la pierre, des têtes d'animaux, des figures historiques comme le général Pélissier, ou, plus improbable encore, Robespierre à cheval sur une chèvre.
Une imagination totalement débridée. On dirait de l'art brut aujourd'hui.
C'est exactement ça.
Mais la fin de l'histoire est d'une tristesse infinie. À sa mort, en 1916, ses propres enfants, qui, d'après le bulletin, le considéraient comme un fou,
oui,
ont presque tout brûlé.
Non.
Si. Tout cet univers incroyable est parti en fumée.
C'est déchirant. On peut imaginer la honte, peut-être, d'avoir un père considéré comme l'excentrique du village. L'incompréhension totale. Pour eux, ce n'était pas de l'art. C'était juste le bazar d'un vieil homme un peu dérangé.
Quelle perte! Et pourtant, ces personnages témoignent d'une vitalité incroyable. Économiquement aussi, le village était loin d'être endormi.
C'est une des grandes surprises de ce bulletin. Il décrit par exemple l'abattoir La Croix.
Oui.
Après la Première Guerre, cette entreprise tuait jusqu'à 1000 agneaux par semaine.
1000 par semaine?
Ah ouais. Et ces carcasses n'étaient pas pour le marché du coin. Elles partaient par wagons entiers pour Paris, Marseille, Bordeaux.
Il y avait aussi une énorme laiterie qui faisait du roquefort. Mais l'industrie la plus folle, c'est l'histoire de l'usine de la Cisba.
Ah, l'épopée de la Cisba. On est en 1944. La France manque de pétrole. Une filiale de Péchiné, la Cisba, lance un chantier pharaonique pour exploiter les schistes bitumineux de la région.
Pour en tirer un hydrocarbure.
Exactement. Pendant 7 ans, cette usine a complètement transformé la vallée.
Elle a fait entrer le village dans la modernité d'une certaine façon. La coopérative de l'usine vendait des bananes, des dattes, des oranges.
Des produits rarissimes à la campagne. Les enfants découvraient les colonies de vacances. Mais il y avait un revers. L'usine polluait énormément.
Ah oui.
L'article a une image très parlante. Les truites de l'Aveyron descendaient au fil de l'eau, ventre en l'air.
Terrible.
Et le rêve s'est arrêté aussi brutalement qu'il avait commencé. À Noël 1950, l'annonce tombe. L'usine ferme. Le pétrole du Moyen-Orient est bien plus rentable.
Le choc a dû être terrible.
Immense. La sirène de l'usine, qui rythmait la vie de tout le monde, s'est tue en mars 1951. Un drame économique et social.
Et aujourd'hui, ironie d'histoire, le site est devenu...
Une base nautique. C'est un parfait exemple de cycle de boom and bust industriel en milieu rural.
Oui, et le bulletin met tout ça en perspective, notamment l'histoire de Costecalde, de l'artiste dont on parlait.
Tout à fait. Juste après, il nous parle de son antithèse complète, Denis Puech.
L'artiste officiel.
Exactement. Le notable, né en 1854, parcours académique parfait, Beaux-Arts à Paris, Grand Prix de Rome, directeur de la Villa Médicis. C'est l'artiste reconnu, célébré, couvert d'honneur. On lui doit d'innombrables monuments officiels, des bustes, des statues.
La culture avec un grand C. La culture légitime.
Et le bulletin crée ce contraste saisissant. D'un côté, Puech, dont l'œuvre est préservée. De l'autre, Costecalde, l'autodidacte, le marginal, le fou, dont l'œuvre a été méprisée et détruite.
C'est ça.
Et le bulletin connecte ça au concept d'art brut, théorisé à l'époque par Jean Dubuffet. Il opposait justement cette culture officielle à une création populaire, spontanée, qui vient des tripes et non de l'école.
Le sacré bazar de Costecalde contre les marbres polis de Puech. C'est une réflexion très puissante.
Oui, au final, ce qui ressort de tout ça, c'est la richesse incroyable qui peut se nicher dans un document qu'on aurait pu juger anodin.
Tout à fait.
Chaque carte postale, chaque article ouvre une fenêtre. On passe d'une pompe à eau à la Révolution française, de la Grande Guerre à la poésie d'un inventeur malheureux.
Et on mesure à quel point le travail de ces associations locales est précieux. C'est une digue contre l'oubli. Sans eux, qui raconterait encore l'histoire du sonneur de cloches Gramnier ou de l'Icare de Tantayrou ?
Probablement personne.
Ou qui essaierait de sauver ce qui reste de la mémoire du musée condamné de François Costecalde.
C'est une forme de résistance mémorielle. Et ça m'inspire une pensée. Ces publications modestes nous rappellent que chaque lieu... Même le plus petit village possède une densité historique, humaine, romanesque, absolument extraordinaire.
Il suffit juste de gratter un peu la surface.
Exactement. Et ça amène à se demander, finalement, combien d'histoires similaires aussi riches que celles de la Panouse dorment en ce moment dans des archives, des boîtes à chaussures, des greniers, dans nos propres régions, attendant simplement que quelqu'un se penche sur elles avec la même curiosité.